Bonsoir à tous et bienvenue sur Edith3. Ce soir, nous allons parler de droit administratif. Ouais, je sais, vous l'attendiez celle-là. Aujourd'hui, nous allons aborder quatre questions notamment. La définition du droit administratif avec la définition stricto et lato sensu. L'identification du droit administratif. Comment on identifie le droit administratif? Comment on sait que là, on parle de droit administratif et pas de droit civil et pas de droit public et pas de droit pénal, par exemple? Ensuite, nous allons aborder la question des fondements du droit administratif avec les deux doctrines, celle du service public et celle de la puissance publique. Et enfin, nous allons aborder les caractères du droit administratif. Nous avons déjà abordé les caractères de la règle de droit général, impersonnel, coercitif, si vous vous souvenez. Mais là, cette fois-ci, on va parler des caractères du droit administratif. Quelle est la définition du droit administratif? Déjà, il faut rappeler que le droit administratif a à la fois une définition stricto sensu et lato sensu, sens strict et sens large. Donc, dans la définition stricto sensu, le droit administratif est défini comme l'ensemble des règles juridiques distinctes de celles de droit privé qui régissent l'activité administrative des personnes publiques. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut simplement dire que toutes les règles qui ne sont pas des règles de droit privé, qui encadrent l'activité administrative des personnes publiques, sont des règles administratives. Et parmi les règles de droit privé que l'on connaît, on connaît par exemple les règles de droit civil et les règles de droit pénal. Donc, toutes les règles qui ne sont pas des règles de droit civil et qui ne sont pas des règles de droit pénal, mais qui permettent d'encadrer l'activité administrative des personnes publiques, ce sont des règles de droit administratif. Aussi simple que ça. Ça, c'est dans la définition stricto sensu. Mais dans la définition lato sensu, le droit administratif est défini comme toutes les règles utilisées par l'administration ou qui s'appliquent à l'administration. D'autres auteurs, par exemple, vont parler que c'est le droit applicable pour l'accomplissement de la fonction administrative. Donc toutes les règles qui vont rentrer dans le fonctionnement, dans l'accomplissement de la fonction administrative, sont des règles de droit administratif de manière lato sensu. D'accord ? Donc c'est à la fois les règles de droit privé, à la fois les règles de droit public. Ça c'est pour la définition au sens large. Donc, on a parlé de la définition du droit administratif. On disait que, dans un sens strict, le droit administratif est défini comme l'ensemble des règles de droit public qui régissent l'activité administrative des personnes publiques. Et dans un sens large, le droit administratif est défini comme l'ensemble des règles à la fois de droit public, à la fois de droit privé, dont l'administration se sert et qui s'applique également à l'administration. D'accord ? Mais sauf que, qu'est-ce que c'est que l'administration? C'est une question importante, parce qu'on ne peut pas parler de droit administratif sans parler d'administration. Je suppose que pour ceux qui sont en L3 droit public, ils ont eu la question de la science administrative, mais bon, c'est pas l'ordre du jour. Donc, qu'est-ce que c'est que l'administration? Pour la définition de l'administration, il y a à la fois une définition organique de l'administration et une définition matérielle. N'oubliez pas, lorsqu'on parle de définition organique, on fait allusion à l'organe. Et la référence juridique ici, c'est l'article 28 de la Constitution de 1991. N'oubliez pas qu'on est en période transitoire au Gabon et que la Constitution en vigueur en ce moment, c'est celle de 91. Donc, l'article 28 de la Constitution de 91 qui mentionne l'administration. D'accord ? Et donc, l'administration au sens organique, c'est donc l'ensemble des institutions publiques chargées de faire fonctionner les services publics. Mais là encore, il y a une question. Qu'est-ce que c'est que les institutions publiques? Et c'est très bien de poser la question. Parce que les institutions publiques, c'est à la fois les personnes physiques, telles que le président, les ministres, les gouverneurs, les préfets. Il y a aussi les personnes morales, telles que les collectivités territoriales, les institutions spécialisées, etc. et aussi les organismes privés investis d'une mission de service public. Vous vous souvenez de l'arrêt Hippo-Barbier ? Bien évidemment, on reviendra là-dessus. Mais on a également parlé de l'administration au sens matériel. Et le sens matériel ici fait allusion à l'activité. Donc l'administration est définie ici par son activité. Et c'est généralement tous ceux qui exercent une activité d'intérêt général qui sont qualifiés d'administratifs. Un tout petit peu. C'est-à-dire les enseignants font partie de l'administration parce qu'ils exercent une activité d'intérêt général. Les médecins sont dans l'administration parce qu'ils exercent une activité d'intérêt général. Ça, c'est dit de façon générique. Bien évidemment, il y a quelques particularités dans ces choses-là. Les footballeurs au Gabon, par exemple, font partie de l'administration, ou bien ceux qui gèrent l'activité footballistique font partie de l'administration parce que, justement, le football professionnel est considéré comme un service public, donc comme une activité d'intérêt général, en quelque sorte. Je pense qu'il y a une nuance entre service public et intérêt général. Bon, vous allez nous dire en commentaire. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Donc, il y a une définition de l'administration au sens organique et une définition de l'administration au sens matériel. On sait désormais ce que c'est que l'administration. Légitimement, on doit s'interroger sur quel est le fondement du droit administratif. Comment est-ce que toute cette histoire-là a commencé et pourquoi ça a évolué autant? D'accord? Qu'est-ce qui a permis cette évolution exponentielle du droit administratif? En fait, c'est l'histoire de deux hommes. En vrai, bon, pas que de deux hommes, mais ce sont les deux protagonistes que j'ai retenus plus facilement. Donc, c'est l'histoire de Maurice Auriol et de Léon Duguit. Vous connaissez certainement Maurice Auriol qui est de l'école de la puissance publique et Léon Duguit qui est de l'école du service public. On dirait un combat des armes, c'est terrible. Bref, donc Maurice Auriol, lui, défendait l'idée que si les moyens mis en œuvre par l'administration sont des moyens de puissance publique, alors c'est le droit administratif que l'on doit appliquer. C'est-à-dire que si l'État a utilisé ses prérogatives de puissance publique, parce que vous savez que l'État à les prérogatives de puissance publique, due à la souveraineté. Bien évidemment, vous savez toutes ces choses, plus que moi d'ailleurs. Donc, si les moyens mis en œuvre par l'État, ce sont des moyens de puissance publique, ben, le droit qui doit s'appliquer, c'est le droit administratif. Et dans les caractères de droit administratif, on va vous dire pourquoi c'est le droit administratif qui doit s'appliquer. Parce que justement, c'est un droit différent du droit civil. Et que, puisque les moyens utilisés par l'administration, ce sont des moyens exorbitants, d'accord, qui sont en dehors des moyens que les personnes privées peuvent utiliser, alors, logiquement, c'est le droit administratif qui doit s'appliquer. Mais Léon Duguit, lui, n'était pas tout à fait d'accord avec cette idée-là, parce que Léon Duguit, lui, c'est l'intérêt général, c'est le service public. Donc, Léon Duguit lui dit, si c'est le service public, c'est-à-dire que si l'activité, c'est une activité de service public, si c'est une activité d'intérêt général, alors, oui, c'est le droit administratif qui doit s'appliquer. Donc, toute la question était de savoir, est-ce qu'il existe un critère qui permet l'application du droit administratif? C'est toute la question du fondement du droit administratif. Est-ce qu'il existe un critère permettant l'application du droit administratif? Et Léon Duguit disait, oui, c'est la puissance publique, c'est le service public. Maurice Auriol disait, oui, c'est la puissance publique. Et bien évidemment, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments où c'était le service public qui était prépondérant, c'est-à-dire que dès qu'il y avait service public, il y avait droit administratif. Et à un moment donné aussi, dans les années 50, c'était pas trop le cas. Donc il ne faut pas oublier que en 1873, autant pour moi, vous connaissez Blanco. Donc en 1873, le principe a été posé. Service public est égal à droit administratif ou juge administratif si vous voulez. Sauf que voilà, ce principe-là a été remis en cause, d'accord, notamment en 1910, d'accord, et en 1912 aussi avec, comment on appelle encore l'arrêt là, 1912, Porphyroïde-Vosges. Donc, il y a eu tous ces arrêts-là avec Bagdéloca qui ont posé des principes différents de ceux qui existaient déjà. D'accord ? Par exemple, avec Porphyroïde-Vosges sur le contrat administratif, sur Bagdéloca avec l'exception du juge judiciaire en matière de services publics industriels et commerciaux. Bon, je suis sûr que vous connaissez toutes ces choses-là. Donc, on va dire ça comment ? La puissance que le critère du service public a acquis en 1873 a commencé à s'amenuiser avec ces arrêts-là. Donc depuis 1910, par là en tout cas. Mais sauf que voilà, le service public n'était pas mort, comme on dit. Le service public a eu encore quelques beaux jours, avec les arrêts tels que Époux, Bertin, etc., etc. En tout cas, vous les connaissez tous. D'accord ? Donc, la question maintenant, c'était de savoir, est-ce qu'on a un critère exclusif qui permet de définir ou bien qui permet de déterminer l'utilisation du droit administratif ? Et la réponse légitimement serait non. D'accord ? C'est-à-dire que, généralement, on essaie de concilier à la fois le critère de la puissance publique et le critère du service public pour déterminer si, oui ou non, il y a utilisation du droit administratif potentiellement par le juge. En tout cas, vous avez des décisions du tribunal des conflits pour vous éclairer là-dessus. Maintenant qu'on a évoqué les fondements du droit administratif, il est temps de se poser la question, quels sont les caractères du droit administratif ? Comme quand on s'est posé la question de savoir quels sont les caractères de la règle de droit. D'accord ? Donc, pour ce qui est du droit administratif, les caractères sont simples. D'accord ? Le droit administratif est un droit à l'origine jurisprudentielle. C'est important de préciser à l'origine parce que, avec la codification du droit administratif actuel, il est de moins en moins prétorien. D'accord ? Donc, c'est important de préciser qu'à l'origine, le droit administratif a beaucoup été un droit jurisprudentiel, c'est-à-dire créé par le juge, qui est l'émanation de la volonté du juge, ou du moins des décisions de justice. En fait, sur cette question-là, je sais que beaucoup d'étudiants ne comprennent pas vraiment, ou du moins se bornent à comprendre ce qui est dit simplement, sans nécessairement aller plus loin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Ça veut simplement dire que tous les principes, autant pour moi, qui ont été dégagés par les codes actuellement, ce sont des principes qui ont d'abord été dégagés par le juge à l'occasion d'un litige. Ce sont des principes que le juge a d'abord dégagés et ensuite qui ont été codifiés. C'est ce que ça va un peu dire un droit d'origine prétorien. D'accord ? Bon, tant bien que mal, j'essaie d'expliquer. Vous me pardonnerez. Et le droit administratif était aussi un droit autonome. D'accord ? Donc, l'un des caractères du droit administratif, c'est que c'est un droit autonome. Autonome vis-à-vis de quoi ? D'accord ? Vis-à-vis du droit privé. Donc, le droit administratif a ses règles propres, a ses sources et a son système d'application aussi. D'accord ? Même si, d'accord, dans l'exception, on va dire que le droit administratif a emprunté quelques règles au droit privé, ou du moins semble avoir emprunté quelques règles au droit privé. Mais le droit administratif, c'est aussi un droit autonome par rapport au droit constitutionnel. D'accord ? Donc le droit administratif n'a pas de référence directe avec le droit constitutionnel. Et il y a la séparation aussi. D'accord ? Même si elle est difficile. Donc le droit administratif, c'est le droit administratif. Le droit constitutionnel, c'est le droit constitutionnel. Donc le droit administratif, c'est également un droit autonome. Donc il est à la fois prétorien, donc jurisprudentiel, et autonome. Mais il y a une troisième caractère que j'aime bien ajouter. Celui-là, je le dois à Laetitia. Bisous, Laetitia. C'est le droit, un droit inégalitaire. D'accord ? Donc, l'un des caractères que j'aime bien ajouter, c'est le caractère inégalitaire du droit administratif. Pourquoi inégalitaire ? Inégalitaire, justement, parce que, faut pas oublier, l'État, en plus de posséder des prérogatives de puissance publique, donc l'État a des prérogatives qui déborde ce qu'un individu pourrait avoir. Mais en plus de ça, le droit administratif a été créé à la base pour favoriser l'État. Il ne faut pas perdre de vue cet objectif-là. Et donc le droit administratif est un droit inégalitaire parce que ces principes ont été émis à la base pour favoriser l'État. Et en plus, on a le Conseil d'État qui conseille l'État et qui défend encore les intérêts de l'État. Tout ça, c'est un tout petit peu embrouillé.